Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être là pour notre invitée de ce soir, Marie Dariussec, qui va nous entretenir dans son rapport à l'écriture, de son déjà long parcours d'écrivain, puisqu'elle est l'auteur d'une dizaine de romans, d'une pièce de théâtre, d'une traduction d'Ovide, qu'elle a également beaucoup écrit sur les artistes contemporains. En tant que psychanalyste, elle a également beaucoup réfléchi à la question qui nous intéresse ce soir, écrire, qu'est-ce que c'est ? Et également à celle de la plagiomnie, puisqu'elle a animé deux séminaires à l'École normale supérieure ces dernières années sur ces thèmes. Elle va s'entretenir avec Nelly Caprielian du magazine Les Inrecuptibles. Je vous souhaite une très belle soirée.
Oui, alors moi je suis évidemment absolument contente de présenter Marie Dariussec ce soir. C'est vrai que ça fait 10 ans à peu près que je te lis, je te tutoie parce que ça fait 10 ans aussi que j'ai l'habitude de réaliser les entretiens pour les Inrecuptibles avec toi pour certains de tes livres. Donc au bout d'un moment, assez vite, on s'est tutoyé, donc on va pas faire semblant ce soir de se vouvoyer. On parlait un peu avant, Marie, de comment on allait aborder cette soirée. Et c'est vrai que moi, dans l'exercice de l'entretien avec des écrivains, ce qui est assez curieux, c'est qu'on parle toujours des livres qui sont sortis, des livres du passé. C'est vrai que j'avais un peu prévu d'attaquer la soirée avec Truisme, déjà paru en 96, qui est vraiment le livre qui tout de suite a fait rentrer avec éclat en littérature et aussi dans le succès et la célébrité. Mais on se disait que finalement, ce serait peut-être pas mal de commencer par le livre que tu es en train d'écrire, et de revenir peu à peu sur les autres et sur les débuts, parce que j'ai remarqué que souvent, même quand les livres sortent, ils sont terminés depuis un certain temps, on demande aux écrivains de s'exprimer sur des livres, et très franchement, des fois, ils nous disent même au début de l'entretien, bon, on est en train d'en écrire un autre, et on est vraiment très excité par le nouveau. Alors, je crois que tu es en train d'écrire un livre qui devrait s'appeler Clève et qui aurait pour base ou pour inspiration ou pour origine ta lecture de La Princesse de Clèves, puisque ce cycle s'appelle Écrire pourquoi et qu'il s'agit d'interroger les origines d'un texte et les origines de l'écriture. Comment tu as eu cette idée pour ce texte? Qu'est-ce qui est le point de départ du texte que tu es en train d'écrire?
Alors, effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que je tourne autour de ce truisme, en fait, de ce cliché qui est le triangle amoureux. C'est tout bête et ça nourrit la littérature depuis toujours. Et j'aime énormément ce roman, La Princesse de Clèves, dont il est convenu et sans doute exact de dire qu'il est le premier roman psychologique sur le triangle amoureux, en tout cas son prototype en France. Alors évidemment, la conversation là, enfin, est-ce que c'est un débat, je ne sais pas, mais est un peu parasité par le fait que Nicolas Sarkozy donc a disconcé contre La Princesse de Clèves il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et ce qui m'a amusé, comme beaucoup d'intellectuels, enfin, c'est tellement ridicule, quoi. Mais bon, ce projet date de bien avant, et La Princesse de Clèves survivra à Nicolas Sarkozy, et j'espère que mes livres aussi. Et enfin, je n'ai aucun doute là-dessus même. Mais bon, et donc voilà, il y a ce léger parasitage, mais c'est quand même, on écrit aussi dans une époque, dans un moment qui existe. On n'écrit pas dans une bulle. Donc je ne peux pas faire comme s'il n'avait pas dit ces bêtises-là, et qui sont d'ailleurs intéressantes. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est la place de la littérature aujourd'hui, etc. Bon, qui lit aujourd'hui, comment. Mais du coup, j'avais depuis longtemps cette idée, ce geste en fait en tête, c'est un geste littéraire, d'appeler ce roman que j'ai en tête La Princesse de Clèves, c'est-à-dire de renommer un livre aujourd'hui La Princesse de Clèves. Et je visualisais, j'ai toujours le titre au début du livre, vraiment à sa naissance. Et je visualisais la couverture, donc chez POL, en toute vraisemblance, hein, Marie Dariussec, La Princesse de Clèves, POL, la couverture blanche, pas de dessin, etc. Et puis bon, c'est venu, il y a eu un parasitage là. Alors maintenant, ça ressemblerait à une espèce de geste politique, et c'est pas du tout mon propos. Donc entre-temps, dans ma tête, le titre est devenu Clève. C'est autre chose. Et puis le roman, évidemment, s'est déplacé dans ma tête. Et donc, je l'ai recommencé. Là, c'est la troisième fois que je le recommence, ce qui m'arrive assez souvent, à vrai dire. C'est donc la troisième tentative. Et là, je crois que c'est la bonne. C'est aussi pour ça que je suis assez excitée par ça en ce moment. Donc, je suis dedans. Et c'est devenu... Le village où ça se passe s'appelle Clève, bien que je ne l'ai toujours pas nommé dans le livre. Donc, à la limite, il ne s'appelle Clève que pour moi. Et c'est devenu... évidemment, c'est sur les triangles amoureux, mais il n'y a plus que moi, au fond, qui sait d'où ça vient. Le lecteur, là, il le lirait sans penser une seule seconde, je pense à la princesse de Clèves. Et ça devient, et c'est toujours ce qui m'intéresse quand j'écris aussi, comme la trace... Enfin, ce qui va rester sur le papier sera la trace de tout un travail mental qui ne va pas laisser de traces et qui, d'une certaine façon, n'appartient qu'à moi. Mais on est là aussi pour parler de ça aujourd'hui. Et c'est quelque chose dont on parle finalement assez rarement. Comment ça s'écrit, quoi. Et j'ai en tête aussi une phrase de Marguerite Duras. Alors, je ne sais même plus si elle l'a vraiment dite ou si je l'ai imaginée, parce que je n'ai jamais réussi à la retrouver. Ça arrive souvent, ça aussi. On a une phrase en tête et puis on se dit ça doit être Duras à telle époque et puis impossible de retrouver. Mais j'ai ce sentiment qu'elle a dit à propos de son livre La maladie de la mort, que c'était comme la trace d'un livre qui aurait existé et qui n'aurait pas été écrit. Voilà, et si vous vous souvenez de La maladie de la mort, ça fait peut-être 30 pages. C'est comme une écume, effectivement, à la surface d'un livre qui ne s'est pas écrit, mais qui est pourtant là. Qui est dans ce livre pourtant. Là aussi, c'est une sorte de geste littéraire, au sens où on parle des gestes artistiques. Donc voilà, j'en suis un peu là, et le livre que j'écris serait une espèce d'écume. D'ailleurs, il va peut-être être relativement épais même, hein. Il y a diverses sortes d'écumes. Mais serait quelque chose qui resterait de finalement tous ces livres qui me sont passés par la tête en pensant à la princesse de Clèves. Voilà.
Alors, tu parlais du triangle amoureux, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose, par exemple, dans l'écriture de la princesse de Clèves, parce que tu n'es vraiment pas du tout un écrivain à histoire, la langue est quand même extrêmement importante, la façon de travailler une phrase, de dire, c'est vrai qu'on a beaucoup dit à ton sujet, y compris probablement moi, que tu étais l'écrivain de la métamorphose, évidemment truisme, de la disparition, des réminiscences, de sensations impalpables, de présence d'un être absent, du vide qui se voit dans, enfin qui se ressent sans se voir. Là, je pense aussi à Naissance des fantômes. Est-ce que toi tu as eu cette impression, parce que est-ce que tu as eu conscience de vouloir saisir avec la langue justement ce qui est indicible, parce que la fiction touche très peu du stylo finalement, rendre dicible l'indicible, repousser les limites du dicible, hein, en essayant de capter toute une part d'invisibilité qui n'est de choses qui ne sont pas tangibles, donc qui ne sont pas tangibles à l'œil, donc qui sont très rarement, comment dire, décrites autrement que par des phénomènes psychologiques, d'ailleurs, dans la littérature. Toi, j'ai l'impression que tu as essayé de capter ça autrement et d'en faire autre chose.
Alors, donc, tu me dis que je ne suis pas un écrivain à histoire, c'est ouais. Toujours quelque chose... Je pense que c'est vrai, hein, parce que...
Enfin, pas que ça,
mais ça reste toujours comme un regret chez moi. C'est-à-dire, à chaque fois, je commence en me disant « je vais raconter une histoire ». Et en fait, à chaque fois, j'échoue, je n'y arrive pas. Ça, quelque chose se met à dysfonctionner. Et je recommence, et j'essaie à nouveau de raconter l'histoire. Et quelque chose se passe qui fait que ça ne s'écrit pas, en tout cas, comme prévu. Et pourtant, il me semble quand même, quand je pense aux livres que j'ai écrits, que, par exemple, dans Tom et Mort, il y a une histoire, il me semble. Enfin, même si elle est très simple et très triste, mais voilà... un deuil, c'est toujours une histoire, parce que ça a toujours un déroulé. Et même si ça ne finit jamais. Truisme, il y avait évidemment une histoire. Mais même Naissance des fantômes, qui est un livre qui est venu perturber, justement. Je savais très bien ce que je faisais. Je savais très bien que j'allais perdre une grande partie du public de Truisme, en tout cas. Et c'était presque... ça m'était nécessaire, en fait. Parce qu'il y avait un gros malentendu, quoi. J'étais pas non plus cet écrivain-là. Donc, Naissance des fantômes, il y avait une histoire, elle était très simple, et ce qui allait la faire rater, c'était effectivement dire ce qui était invisible, essayer de le dire. Et effectivement, une partie du public n'a pas suivi ça, et c'était nécessaire. Mais c'est là que, pour moi, ça devient à la fois de l'ordre du ratage et de la réussite. C'est-à-dire, je cours après quelque chose qui n'est pas possible. Mais c'est ça qui me fait avancer, c'est-à-dire attraper quelque chose dans cette zone où il n'y a pas de mots. Alors ça, c'est aussi très important pour moi, c'est que je me rappelle, en terminale, j'ai eu une prof de philo absolument excellente qui m'a ouvert tout un univers qui était celui des concepts, en fait. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le mot concept. Et elle nous a expliqué à un moment, et c'était toujours très convaincant ce qu'elle disait, j'étais suspendue à ses lèvres, quoi. J'apprenais vraiment. Et elle nous a dit à un moment, il n'y a pas de pensée sans mots. Et ça m'a beaucoup, beaucoup troublée. Parce que je n'avais pas idée, par exemple, de tout ce qu'est l'inconscient et de tout ce qu'on peut chercher en psychanalyse, où évidemment l'inconscient se fait aussi sans mots, même si c'est complexe. Mais en tout cas, il me semblait bien que dans ma tête, quand même, ça pouvait penser sans mots. C'est-à-dire, je n'étais pas tout le temps à faire des phrases. Et certes, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais on pouvait aussi concevoir les choses pas bien, pas selon la grande tradition française ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais pas bien, mais de façon quand même existante. Enfin, ça existait dans ma tête. Et je questionnais les gens. Je me rappelle, ça m'obsédait. J'essayais de comprendre comment pensaient les autres. Ça, c'est tout de suite un thème très romanesque, en fait. Et alors, il y avait des gens qui... Je me rappelle une copine qui m'avait dit qu'elle pensait tout le temps en phrases. C'est-à-dire, il y avait tout le temps des phrases complètes dans sa tête, mais qu'elle pensait qu'elle était folle. Et je pense qu'elle l'avait vu assez juste, en fait, sur elle. Et la plupart des autres gens, quand même, me répondaient qu'ils pensaient beaucoup par image. Voilà, ils visualisaient des choses. Et aussi qu'ils pensaient par bribes, que la plupart de leurs phrases n'étaient pas finies dans leur tête. Mais à vrai dire, j'obtenais très peu de réponses. Parce que c'était pas une conversation, quoi. C'était pas... Bon. Alors, c'était très lié, ça, pour moi, à l'écriture. C'est-à-dire, il se passe quelque chose avant l'écriture. Et c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, tout ce qui se passe avant, c'est ça qui va aboutir à ces quelques pages. Mais elles ne sont que le reste. Il s'agit de reste et de traces. Et tout ce qui est avant, le livre est là, mais ce livre a échoué. Ce livre, je n'ai pas réussi à l'écrire. Et pourtant, il va rester un livre. Et alors, qu'est-ce que c'est qui reste ? Bon, mais c'est ça qui reste. Je ne peux pas faire plus à un certain moment. Et donc, je passe au livre suivant. Mais c'est sans fin. Et c'est à la fois de l'ordre d'un très grand plaisir et d'une véritable... Enfin, c'est damnation, c'est un moment très romantique. Mais en fait, il y a ce côté-là de pas avoir le choix, d'être obligé, quoi. Sinon, qu'est-ce qui se passerait ? Bon, voilà. Donc, non, c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passerait, mais ça serait affreux, quoi. Donc, bon, d'où aussi le désir, c'est une autre histoire, mais le désir de faire autre chose. Parce qu'il y a aussi une idée très romantique. J'entendais Enrique Villamatas en parler récemment, là, sur France Culture. Idée qu'il partageait avec Duras, qu'il ne faut faire que ça, écrire. C'était aussi quelque chose que disait Jérôme Lindon, des éditions de Minuit. Il m'avait dit ça. On s'était rencontrés, j'étais très jeune, et il m'avait dit « Ne faites que ça, les vrais ne font que ça ». Et quand il me disait ça, j'étais un peu paralysée. J'avais beaucoup, évidemment, d'admiration pour lui. Et quand il me disait ça, je pensais à Kafka. Et je me disais, mais il me semble bien, et je n'osais pas lui dire, il me semble bien que Kafka avait un job, parce qu'il était obligé. Il était assureur, en fait. Je ne me rappelais pas à l'époque, mais il était assureur. Et certes, il n'aimait pas ça. Et je pense qu'il n'aurait pas été Kafka s'il n'avait pas été assureur, s'il n'avait pas été obligé d'être assureur. Bon, donc c'est compliqué ça, ne faites que ça. En tout cas, il y a eu, excuse-moi, je réponds non, par bien, esprit d'escalier, bien. Mais il y a eu un moment dans ma vie relativement récent où je n'ai plus pu ne faire que ça et où donc je suis devenue, j'ai essayé de devenir, parce que c'est encore toute une histoire, psychanalyste. Parce qu'il fallait que je... Pour essayer d'être dans la vie quand même, d'essayer de faire quelque chose et pas de... Alors c'est un mauvais choix, hein, psychanalyste, parce que on fait pas grand-chose non plus, quoi. Et il s'agit aussi de reste. Mais bon, C'est une tentative, voilà. Mais je ne pouvais plus ne faire qu'écrire.
Bah, en tout cas, tu restes dans les mots avec la psychanalyse, dans la narration, et c'est peut-être aussi une façon de pénétrer dans le cerveau des autres. Ce que tu disais tout à l'heure de cette façon où tu demandais à tes proches comment ils pensaient, que ça te fascinait, est-ce que c'est ce questionnement qui t'a fait écrire Bref séjour chez les vivants en 2001 ?
Exactement.
C'est vraiment une plongée dans quatre cerveaux et quatre façons de penser.
Un bref séjour chez les vivants, donc c'est mon quatrième roman publié. Et ça a été aussi une sorte de rupture, parce qu'il y a eu d'abord trois très courts romans, Truisme, Naissance des fantômes et Le mal de mer, que dans ma tête, je vois comme une trilogie, pour des tas de raisons.
Et bref séjour... pour lesquels ?
parce que, d'abord pour leur format, ensuite parce que c'était... Chacun de ces livres, Truisme, Naissance des fantômes, Le mal de mer, correspondait à une seule idée que je développais et que j'explorais sous plusieurs facettes. Et je ne voulais pas déborder de ça. C'était presque des exercices au sens où j'apprenais à écrire. Ça faisait très longtemps que j'écrivais, mais j'apprenais à écrire en tant qu'écrivain publié, ce qui est particulier. Donc je ne voulais pas être trop ambitieuse au départ. Et puis voilà, finalement, ces trois romans, ils ont eu leur public, ils ont eu un accueil. J'étais en quelque sorte reçue dans un certain endroit qui s'appelle en France la littérature. Bon. Et je me suis autorisée à écrire un livre beaucoup plus ambitieux, qui est peut-être raté, je ne sais pas, mais qui pour moi a été une étape vers cette chose que je cherchais par-dessus tout, qui était effectivement le sans mots, ce qui se passe dans le cerveau des gens, là où il n'y a plus de mots dans leur tête, là où ça passe à autre chose, et pourtant c'est là, et c'est de la pensée, et c'est du vivant. Et c'est de l'humain. Et donc, voilà, je voulais écrire ça. Alors, c'est un dispositif qui est en fait tout simple. Bref, séjour chez les vivants, enfin. C'est quatre ou cinq voix mêlées. C'est des flux de conscience. Mais c'est vraiment de l'ordre du cerveau. À l'époque, je lisais beaucoup de neuropsychologie, de toutes ces expériences dans le livre le plus populaire là-dessus. Vous savez, c'est Olivier Sacks, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Tous ces gens qui ont eu le cerveau... abîmé ou un cerveau étrange et qui ne pensait pas exactement comme les autres. Mais en fait, personne ne pense comme personne. Quoi. On en arrive très très vite là, surtout quand on est psy après. Enfin, la pensée des gens est totalement singulière. Donc voilà, j'essayais d'attraper dans un livre des réseaux de pensée comme ça, qui ont évidemment entre elles des échos, avec des espèces d'effets de télépathie, et puis une vision, alors ça m'a toujours poursuivi aussi, cette idée qu'on est debout sur une planète et qu'on l'oublie constamment. Sinon, peut-être, on deviendrait fou. Mais on est debout sur une planète et elle tourne en ce moment même.
Elle est ronde.
Ouais, il paraît qu'elle est ronde. Et la nuit passe, en fait, comme ça. La nuit tourne autour de la planète. C'est faux, bien sûr, mais c'est cette impression que la nuit tourne autour de la planète. Et donc, dans ce roman, il y a des personnages. Il y en a une qui est à Buenos Aires, d'autres dans d'autres pays. Donc, elle pense au même moment où elle rêve pendant que d'autres sont éveillés. Et des échos se passent. Bon, voilà. Donc c'était une écriture particulière où ça allait vers... une des femmes qui en parle le mieux, c'est Nathalie Sarraute. C'est tout simple aussi. Elle dit... on croit toujours que Nathalie Sarraute, c'est un écrivain du mot, presque quelqu'un de nominaliste. Mais pas du tout. Elle part toujours de la sensation. Elle y tenait beaucoup à ça. Elle élargissait le mot sensation, c'est-à-dire la sensation, c'est pas seulement le toucher, l'odorat ou je ne sais quoi. La sensation, c'est aussi ce qu'on sent dans son cerveau en termes de... Il y a quelque chose qui se passe là entre nous et c'est quoi entre les mots, qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord, elle commençait à sentir quelque chose et après, elle cherchait le mot à mettre dessus, en sachant qu'il y a une zone relativement inatteignable. Alors, tu as employé le mot « indicible ». Le mot « indicible » est extrêmement chargé aujourd'hui. Il y a une sorte de croyance en l'indicible qui est liée à la mémoire et à l'histoire, et à l'histoire désastreuse du XXe siècle. Et je pense que c'est un des tabous qui pèsent sur la littérature contemporaine aujourd'hui, c'est qu'il y aurait de l'indicible et la littérature transgresserait quelque chose à vouloir aller le dire. Alors je pense que l'indicible, ça n'existe pas. Enfin, j'insiste là-dessus. Il y a du non-dit, du non-nommé, mais il peut être nommé. Et s'il y a de l'indicible, il peut être dit. On peut toujours grignoter sur l'indicible. Et c'est le travail de la littérature. La littérature, c'est pas autre chose. Et il faut la laisser faire ce travail, d'avancer tout doucement vers l'indicible.
Alors techniquement, comment ça se passe? Parce que quand tu dis justement pour bref séjour chez les vivants, qu'il s'agissait d'aller fouiller dans la zone où il n'y a pas de mots, dans ses cerveaux, ensuite n'empêche que tu l'incarnes en mots puisque ça devient un livre. Techniquement, quelles questions tu te poses? Comment tu écris finalement, non pas la langue, mais la langue de pensée de cette zone sans mots? Comment tu la crées? Comment tu l'inventes? Enfin, comment techniquement ça se passe pendant que tu écris?
Alors là, c'est très matériel, hein, parce que ça a l'air comme ça, dans des espèces de hautes sphères. En fait, c'est très matériel et c'est vraiment très souvent de l'ordre du ratage, à nouveau, au sens là de la rature. Hein. Donc, comment je fais? Ça va être très, très matériel, mais bon, pendant plusieurs mois, je rêve éveillée. Je dis souvent que je rêvasse. Et mon éditeur, pas Paulo Tchaikovsky-Laurence, mais Jean-Paul Hirsch qui travaillait avec lui, m'a souvent dit qu'il fallait que j'arrête de dire que je rêvasse, parce que rêvasse, c'est péjoratif. Ça fait vraiment je rêvasse. Mais si, c'est vraiment ça, je rêvasse. C'est pas très... Ça n'a rien de noble, en fait. Je rêvasse. Je suis assise chez moi, je ne fais rien et je rêvasse. Et n'importe quoi me traverse la tête. Et dans ce n'importe quoi, il y a des bribes du livre en cours. Par exemple, il y a aussi beaucoup d'insomnies, mais qui sont des insomnies heureuses. Cette nuit, j'ai beaucoup écrit dans ma tête. Ça se fait beaucoup comme ça. Donc ça se met en place, je vois des paysages, des scènes, comme on dirait au théâtre, des personnages. Voilà, je réemploie tout ce vieux vocabulaire que Nathalie Sarraute honnissait, parce qu'il y a eu un moment nécessaire où il fallait se débarrasser de ça. Et aujourd'hui, la littérature contemporaine reprend ces mots-là et ces outils-là et en fait autre chose, je crois. Donc voilà, il y a des personnages. Là, dans ce roman que j'écris, ils ont des noms. Ce qui n'est pas toujours le cas dans mes livres, mais là, ils ont des noms. Ils sont situés dans un village qui est un huis clos. Ça vient de la princesse de Clèves, puisque la princesse de Clèves, c'est un huis clos extrêmement étouffant, hein, à la cour du roi. Bon, là, ça n'a plus rien à voir, mais c'est aussi un huis clos. Et donc, ce huis clos se développe dans ma tête. Il y a plusieurs familles. Et j'ai eu un moment de panique il y a quelques mois, là, parce que il y avait tellement de familles, avec tellement d'histoires, un peu à la Faulkner, quoi. Et tellement de croisements entre elles que... Je me disais, je vais pas m'en sortir. Ça faisait 6 livres, en fait, 6 tomes dans ma tête. Ça faisait trop et je savais plus par lequel commencer. Donc, j'ai commencé une première fois sur un cahier. J'ai écrit 60 pages, c'était pas ça. Donc, j'ai pris un autre personnage comme point de vue. J'ai réécrit à peu près 80 pages, c'était toujours pas ça. Et c'est affreux quand c'est pas ça. Et donc là, depuis à peu près, ouais, un mois et demi, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que j'ai envie de le continuer. Ça, c'est un signe en général qui ne trompe pas. Il y a du désir. Il y a du désir. Donc, toute cette période de rêvasserie aboutit à un cahier. Il y a le problème de la première phrase, mais bon, ça, on verra peut-être plus tard. Et le cahier avance comme ça. Et si ça va bien, j'écris ce cahier à peu près, je ne sais pas, en 6 mois ou 1 an. Et ensuite, je le reprends à l'ordinateur. Et alors là, c'est tout un autre travail. C'est affreux, quoi, quand on reprend. Il faut couper. Du coup, il y a des trous partout. Du coup, il n'y a plus de transition. Et puis, on se dit, oh, mais tant pis pour les transitions. Alors, on colle les morceaux. Et puis, ça, bizarrement, parfois, ça marche. Et au bout d'un moment, on a un livre. Alors, il faut à nouveau la retravailler pour retrouver le rythme initial qui souvent s'est perdu entre-temps. Vraiment travailler les phrases poétiquement. C'est-à-dire... La poésie, les romans, ça n'existe pas, tout ça. C'est pas séparé. On écrit, quoi. Et puis la forme se trouve comme elle se trouve. Et quand j'écris un roman, c'est de la poésie, c'est pas autre chose. C'est-à-dire, c'est d'abord une harmonie, c'est d'abord un rythme, c'est d'abord des sonorités, et c'est des images. Et voilà. Si c'est pas de la poésie, je sais pas ce que c'est. Et il se trouve que parfois, il y a une histoire, ou pas, mais bon. Donc je retravaille au niveau des phrases... Et au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire de plus pour ce livre, et donc je le donne à mon éditeur, et là, on commence une autre conversation. Donc c'est tout un bazar.
Ton éditeur peut intervenir, ou en tout cas te donne des conseils, tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas.
En tout cas, il faut qu'il fasse gaffe.
Bah oui, j'espère bien.
Il a le droit d'intervenir, mais j'ai aussi le droit de ne pas suivre ses conseils. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas des conseils, c'est des remarques. Bon, c'est un éditeur très singulier, hein, Paulo Tchaikovsky-Laurence, il n'y en a pas beaucoup qui font ce travail-là de cette façon. Je raconte souvent cette histoire, mais quand j'ai publié Truisme, j'avais été acceptée, c'était merveilleux pour moi, j'avais 27 ans, j'avais été acceptée par 4 éditeurs. Et Tout le monde avait des remarques qui, d'ailleurs, parfois étaient justes. Hein. Mais Paul, quand je lui ai remis le manuscrit, bon, il m'a dit que le titre n'était pas possible, truisme. Il m'a dit, votre nom n'est pas possible. Truisme, ça veut dire quoi ? POL, on n'est pas une maison très connue. Donc, vraiment, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc, il faut absolument qu'on change au moins le titre. On ne peut pas changer POL, on ne peut pas changer votre nom. Bon. Et donc, on a réfléchi. Je me rappelle, on faisait des listes de titres. Et j'ai signé un contrat, je l'ai toujours. C'est un contrat pour un livre qui s'appelle La Parfumerie. Super. La Parfumerie.
Ça, c'est Paul qui a eu pour ouais, l'idée. Laurence qui a eu l'idée.
Génial, ouais. Donc, mais à part ça, ce que Paul voulait modifier éventuellement, c'était... J'ai tout de suite compris où j'étais, quoi, parce qu'il me disait, page 53, vous répétez deux fois le même adjectif. C'est une étourderie ou c'est voulu ? Alors je regardais, je me disais, waouh, c'est vrai, j'ai répété deux fois. C'est une étourderie ou c'est voulu ? Je ne savais pas forcément. Donc je réfléchis, je rentrais chez moi et là, effectivement, je me posais la question. Est-ce que cet adjectif est nécessaire ou pas ? Mais c'était toujours de cet ordre-là. Pour Naissance des fantômes, je me rappelle très précisément qu'il y a beaucoup de parenthèses dans Naissance des fantômes. Et il voulait les remplacer par des points. Il me disait, c'est exactement pareil. Et il lisait à voix haute et il me faisait entendre que c'était exactement pareil. Et je lui prenais le manuscrit des mains et je lisais à voix haute et je lui faisais entendre que c'était pas exactement pareil. Et donc, on a vraiment discuté là-dessus. Et sur ça, j'ai tenu bon. Je me rappelle beaucoup, beaucoup plus tard, il m'avait dit qu'en fait, il était d'accord avec moi. Mais c'est pas une lutte de pouvoir, quoi. C'est vraiment une discussion littéraire, technique. Et les autres éditeurs potentiels pour Truisme, qui étaient, en particulier, il y en avait un que j'aimais beaucoup aussi, et c'était pas exactement le même esprit, ou alors c'était carrément, je vais pas citer les noms, mais ou alors c'était carrément n'importe quoi sur le mode la fin est pessimiste, il faut changer la fin, quoi. Bon, donc ça, c'était, on sait où on est aussi quand on entend ça, quoi. Donc, ce travail que je fais est accompagné très discrètement, sans pression. Je n'ai jamais de délai, par exemple. Mais il est accompagné quand même, ce travail. C'est-à-dire, je sais que j'écris dans cette maison-là. Et ça me fait une sorte d'horizon où je sais que les gens qui sont dans cette maison ont la même exigence littéraire que moi. Et donc, on se sent moins seul, tout bêtement. Je n'ai pas à me battre contre un éditeur qui ne comprendrait pas ça. Bon. Donc, c'est très, très confortable.
Alors, j'ai amené avec moi Tom est mort, parce que il y a cette première phrase qui est très très forte. Tu commences par quelque chose qui a l'air comme ça très simple. Tom est mort, point. J'écris cette phrase. Ensuite, il y a un saut de deux lignes et tu reprends. Ça fait 10 ans que Tom est mort, 10 ans maintenant. Mais la date ne s'est pas inscrite au fer rouge, comme on dit. Bon, et le livre continue, je ne vais pas lire tout le livre. Alors, tu parlais de cette rêvasserie, de ces moments, ou de ces insomnies, de ces moments où les choses te viennent, où tu penses au livre. À partir du moment où tu commences le livre, comment tu attaques une première phrase ? Et celle-ci, par exemple, comment elle te vient ?
Alors, ce livre-là, donc j'ai aussi fait au moins 2 tentatives. Ce n'était pas 60 pages comme là, c'était peut-être 5-6 pages, et ça ne marchait pas. Et je me suis souvenue d'une conversation avec Yannick Enel, où il me disait qu'il était à un moment de sa vie où, pour lui, c'était nécessaire, quand il avait un narrateur, quelqu'un qui parle dans un livre, que ce narrateur écrive. Pas forcément qu'il soit écrivain, mais de ne pas faire semblant que le livre n'est pas écrit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ne pas faire semblant qu'on n'est pas en train d'écrire un livre et que les phrases ne s'écrivent pas. Et bon, ça, c'est vraiment, c'est dada à lui. C'est pas forcément des choses qui me concernent, mais ça m'avait intéressée. Et je me suis dit, pour Tom est mort, ce qui ne va pas, là, dans les tentatives, c'était déjà une femme qui parlait à la première personne et qui se remémorait cet accident, la mort de son fils, et qui était toujours dans le deuil 10 ans après. La structure était déjà là. Mais le point exact de narration, je l'avais pas. Ça marchait pas, c'était... Je n'entendais pas le son nécessaire du livre. Et en fait, je me suis souvenue de cette conversation et je me suis dit, elle va écrire. Elle va écrire. Ce n'est pas un écrivain. C'est une femme au foyer, comme beaucoup de mes personnages. Peut-être on y reviendra. C'est très important pour moi, ça, la femme au foyer. Mais bon. Et elle écrit un cahier. Voilà, c'est tout simple. Parce que ça fait 10 ans et qu'il s'est passé un événement anodin, que je raconte au début du livre. Hein. Elle a eu un... C'est un événement en apparence anodin. Elle a eu un moment d'oubli. Pendant quelques secondes, sur une plage, un moment de bonheur, elle a oublié la mort de ce fils. Et c'était la première fois qu'elle l'oubliait. Sinon, elle y pense tout le temps. Et enfin, il est toujours là, quelque part, quoi. Et ça la trouble tellement, ça l'horrifie, en fait, tellement, qu'elle décide de tenir ce cahier. Et à partir de là, le livre s'est déroulé, parce qu'elle écrivait, comme moi, finalement. Et elle mettait des mots là où il n'y en avait pas. Voilà, c'était ce geste-là. Et je me suis rappelé aussi que Truisme, en fait, c'est pareil. C'est aussi une narratrice qui écrit. Et chose qu'à l'époque, j'avais pas pesé sans doute à l'époque l'importance que ça avait pour moi. Mais je n'aurais sans doute pas pu écrire ce livre si la narratrice n'écrivait pas elle-même, si elle n'était pas dans les mêmes difficultés que moi, qui sont des difficultés d'écriture et de vie, d'être, quoi. Comment on est, quoi. Bon. Et beaucoup de mes personnages parlent à la première personne. Et en fait, je crois qu'ils écrivent, même si ce n'est pas dit dans le livre. C'est-à-dire, dans Naissance des fantômes, à mon souvenir, elle n'est pas en train de dire qu'elle tient un cahier. Son mari a disparu, elle l'attend. C'est tout bête, hein. C'est ça, l'histoire, quoi. Elle ne tient pas de cahier. Ça se passe dans sa tête. Mais j'ai toujours eu un petit malaise à me dire, mais alors d'où elle sort, cette voix ? Vous savez, le coup du micro qui va enregistrer dans la tête, quoi. Il est relié. Comment on a accès à cette voix ? On se pose souvent la question des narrateurs omniscients, vous savez, à la troisième personne, ceux qui savent tout, chez Balzac ou dans Guerre et Paix. Bon. Mais la première personne est largement aussi énigmatique. Comment est-ce qu'on a accès à ça? C'est une convention, oui, mais cette convention me trouble un peu. Donc effectivement, pour Tom est mort, à partir du moment où elle a écrit, j'avais tout. J'avais la première phrase, Tom est mort, j'écris cette phrase. Et ça se déroulait. Et là, dans ce livre qui s'appelle peut-être Clève, c'est pas du tout ça. Parce que j'ai aussi, il y a un moment aussi où ça tourne à, quand on sait trop faire, ça devient dégoûtant. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'écrire un livre que je sais faire. Donc j'essaie toujours de, c'est pas que j'essaie, j'ai pas le choix. Si je sais faire, je m'ennuie, quoi. Donc je crois que les deux premières tentatives de ce livre-là, qui s'appelle peut-être Clève, je savais faire, en fait. Là, ce que j'ai écrit, on va voir, quoi. Mais...
Donc c'est pas une narratrice qui écrit.
Non, là non.
D'accord. Et Truisme, comment est-ce que tu te souviens exactement du moment où tu as écrit cette première phrase et...
Je me rappelle très bien.
Et la première phrase, d'ailleurs, j'ai pas amené le texte.
Mmh. La première phrase, c'est je sais combien cette histoire pourra troubler de gens, quelque chose comme ça. Et puis après, je dis que mon éditeur finira sans doute en prison. Enfin bon, ce qui évidemment après coup nous a fait rire chez POL. Alors, Truisme, c'est vraiment un moment de ma vie. J'étais étudiante, je finissais très péniblement une thèse et j'étais désespérée, il faut appeler les choses par leur nom. Et c'était au moment des grandes grèves de la fin de 1995, où il y avait à la fois une grande ébullition sociale, quelque chose de très riche et quelque chose de désespéré aussi. Et vous vous rappelez, enfin, si vous étiez à Paris ou même en province, enfin, ce qui se passait. Moi, j'étais à Paris, mais j'étais en banlieue à Malakoff, et c'était toute une histoire, quoi, parce que ne serait-ce que de se déplacer dans la ville était une aventure, et c'était à la fois, désespérant et euphorique. Il y avait quelque chose qui se passait. Le cliché, c'est que les gens se parlaient, mais c'était vrai que les gens se parlaient, voilà. Et je me rappelle des détails comme ça, mais on a tous des souvenirs de ce moment-là, peut-être. Je me rappelle d'avoir laissé mon vélo à un parfait inconnu parce que je voulais arrêter une voiture qui allait peut-être là où j'allais. Bon, et voilà, et tout le monde collaborait comme ça et se parlait. Et le type m'a gardé mon vélo. Il n'avait pas que ça à faire, donc il l'a posé. Et quand je suis revenue, le vélo était toujours là. C'est assez anecdotique, mais ça dit quelque chose de cette époque. Bon. Et puis, encore un détail, mais je me suis trouvée. Donc j'ai dû traverser Paris à pied, ce qui est toujours une aventure aussi. Et donc je m'arrêtais régulièrement comme une randonneuse, quoi. Je faisais des étapes dans des bistrots. Et le livre venait, en fait, et ce livre, Truisme. Et je me rappelle très bien que la toute première idée, c'est celle du livre, c'est-à-dire une femme se transforme en truie. Et j'étais très embarrassée par cette idée, parce que je la trouvais horrible, vraiment dégoûtante, enfin, saugrenue, bête. Et un des signes aussi, c'est que quand l'idée insiste, il n'y a pas le choix. Il faut en faire quelque chose. Et ça faisait longtemps que j'écrivais, mine de rien. Donc je suis... Dans cette ville en ébullition, j'ai commencé à l'écrire comme ça. Excusez-moi, c'est un peu long, mais il s'est aussi passé quelque chose de très singulier dans ma vie à ce moment-là. C'est que parce que j'étais désespérée, j'en ris maintenant, mais c'était pas drôle, je suis allée voir un psychanalyste, comme on sauve sa peau, quoi. Voilà, c'était ça ou crever. Et je me rappelle, j'ai jamais tenu de journal, mais j'ai des calepins où je note les dates, enfin, comme tout le monde, quoi. Et puis je note aussi toujours quand je commence un livre, quand j'ai la première phrase, quand vraiment je le commence. Et bien longtemps après, je me suis rendu compte que j'avais commencé la première page du truisme l'après-midi de ma première séance. Comme quoi, ça marche, la psychanalyse, malgré ce qu'on en dit parfois. Et je demandais, c'était totalement inconscient. C'est bien après que je m'en suis rendu compte. J'avais le livre en tête depuis assez longtemps. Mais je me rappelle, ma première séance, c'était quelque chose comme, enfin, c'était début janvier 96. Et c'est là que j'ai commencé la première page, avec ces phrases-là. Et après, le livre, donc, je l'ai écrit très, très rapidement, en 6 semaines, parce qu'il était entièrement là dans ma tête. Et c'était quoi ta question au début ?
Ouais, c'était la première phrase.
Voilà, la première phrase. Et donc, voilà, donc, comment elle m'est venue, celle-là, je ne sais plus très bien.
Mais donc, est-ce que tu dirais justement que c'est aussi ce début d'analyse de cette séance qui, finalement, où ont ouvert quelque chose, enfin, qui avait
ça m'a autorisé.
Ça m'a autorisé. Alors, justement, bon, ensuite, depuis quelques années, tu exerces aussi en tant que psychanalyste. Est-ce que entre le fait d'avoir été analysante et le fait d'être psychanalyste, est-ce que ça change ton rapport à l'écriture ? Est-ce que ça d'écouter les autres ? Est-ce que ça tu en fais quelque chose dans tes livres ? Il y a beaucoup en effet d'artistes qui disent, enfin beaucoup d'écrivains quand on les interviewe sur la psychanalyse, qui ont très très peur que ça les rend arides et que ça assèche leur créativité. Toi, quel est ton rapport à la psychanalyse par rapport à l'écriture ? Qu'est-ce que ça t'apporte ou pas ? Ou est-ce que ça, des fois, ça t'a freiné aussi ? Je ne sais pas.
C'est un vaste sujet. Dans mon cas, et je crois quand même, je crois vraiment que c'est un cliché, hein, c'est une peur de croire qu'on va être stérilisé par la psychanalyse quand on est un artiste. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'un artiste qui ait été arrêté par la psychanalyse, à moins que, en fait, si, à vrai dire, je pense à quelqu'un, mais à mon avis, c'était parce que, alors c'est quoi un vrai artiste, c'est un peu des bêtises, ça, mais c'était parce que c'était plutôt chez lui un empêchement à vivre vraiment de l'ordre de la maladie, enfin quelque chose dont il fallait qu'il se débarrasse ou il allait en mourir, quoi. Donc chaque histoire est singulière, mais à part ce cas-là, tous les autres cas que j'ai en tête, peintre, écrivain, Ça a aidé les artistes que je connais à exercer leur métier, tout bêtement, et à oser affirmer qu'ils étaient des artistes. Il n'y a pas question de le clamer sur les toits, c'est pas ça. Mais se penser comme artiste, accepter ça, ce qui n'est pas facile. Donc, dans mon cas, ça c'est très précis ce qui s'est passé, c'est que ça a dénévrosé, dans la mesure du possible, mes livres. C'est-à-dire que tous les manuscrits précédents, Truisme, il y en a 4 ou 5, ils n'ont pas été publiés, que ce soit par Lindon chez Minuit ou par Gallimard. En fait, c'était les deux maisons que j'essayais, je n'avais peur de rien. Parce que c'était des livres beaucoup trop, alors on dit immatures, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire des livres qui ne parlaient que de ma névrose à moi, que de mes règlements de compte, que des... En fait, je ne voulais pas m'adresser à un public. Je voulais m'adresser à mon papa, ma maman, à mes ex, à ceux qui m'avaient quitté, à ceux, voilà, et à moi, quoi. Et ça n'avait aucun intérêt. Enfin, alors, Lindon m'avait dit, bien sûr, parce que ça a été très important pour moi, mais il m'avait encouragé, il m'avait dit qu'il y avait une écriture, etc. Mais c'était pas du tout des livres aboutis pour ça. Et donc, la psychanalyse, c'est tout bête. J'ai déversé sur un divan, 2 ou 3 fois par semaine, cette névrose. Je suis loin d'avoir tout réglé, mais ça a vidé mes livres de... J'ai vraiment une métaphore bouchère dans la tête. Je vois, vous savez, quand on vide la viande de son sang, quoi, les foie gras dans le sud-ouest. Les foie gras, il faut absolument, quand on fait du mi-cuit, par exemple, c'est un truc que m'a appris un très bon cuistot basque, il faut les vider. Il y a toujours encore un petit peu de sang dedans. Sinon, ça n'a pas très bon goût. C'est pas horrible, mais ça n'a pas très bon goût. Mais c'est exactement l'image que j'ai là dans la tête. Ça a vidé ce qui était, ce qui était pas bon, quoi. Il reste des trucs pas bons, mais ce que je pouvais, voilà, ma marge de liberté là-dessus, je l'ai explorée. Voilà, je suis arrivée à ce que je pouvais faire là-dessus. Donc ça m'a énormément libérée pour écrire. Et j'ai osé écrire des choses que j'aurais sans doute pas osé, ne serait-ce que parce que une des choses fondamentales quand on écrit, c'est qu'il ne faut pas penser à son papa, à sa maman, et puis ensuite à ses enfants, quoi. Et un des soucis aussi que j'ai, si la psychanalyse vient entraver quelque chose, il est possible que là, en ce moment, je pense trop à mes patients. C'est-à-dire, je me dis, oh, si jamais ils lisent le prochain, il va se passer quelque chose au niveau du transfert, là, Bon, et ça aussi, je crois que c'est idiot. D'abord, parce qu'ils se débrouillent très bien avec mes bouquins, hein, c'est leur problème, finalement. Et sinon, ils viennent pas. Enfin, c'est aussi bête que ça, quoi. Mais voilà, il y a toujours des gens qui viennent, dans votre tête, vous empêcher d'écrire. Et mes enfants grandissent, et je me dis, mon Dieu, aussi, ils vont... Donc voilà, la psychanalyse, ça m'a aussi aidée à être seule devant ma page, tout bêtement. Et après, être analyste, c'est un rapport évidemment fondamental aux mots, mais ce qu'on oublie, pourtant ça crève les oreilles, c'est que c'est de l'oralité, et ça n'est que de l'oralité. Ça ne peut pas passer par écrit. Par exemple, tout bêtement... En ce moment, c'est parce que c'est dans c'est cette époque, les analysants, ils envoient des textos à leur psy ou alors des mails. Enfin bon, c'est pas possible. Ça ne peut pas passer par écrit. Ça n'est que de l'oral pour autoriser déjà à la base les lapsus, les actes manqués dans les rendez-vous. Il faut absolument la présence et l'oralité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un exercice. C'est pas un exercice, mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas de la littérature. Ce sont deux activités différentes. Donc voilà, j'ai eu besoin de faire autre chose avec les mots. Et c'est réellement autre chose.
Alors, tu évoquais là, tout à l'heure, un peu plus tôt, que tu écrivais surtout autour de femmes au foyer.
Oui.
C'est vrai que je savais qu'il y avait beaucoup de narratrices ou de personnages féminins. C'est vrai que ça ne m'avait pas absolument frappé qu'elles étaient au foyer. Est-ce que... C'est le fait qu'un travail les occuperait trop, qu'il n'y aurait pas cette espèce de vie de temporelle pour accueillir justement les fantômes, les métamorphoses, les pensées, les émotions, leurs sentis. Pourquoi en fait ?
Alors c'est tout à fait ça, c'est parce qu'un travail les occuperait trop. C'est parce que c'est très encombrant dans un roman de devoir faire ce pas vers le réalisme, de céder quoi, et de faire que le personnage ait un métier, si ce n'est pas le sujet du livre. Et pour l'instant, ça n'a jamais, finalement, sauf dans Truisme, où elle est quand même prostituée au départ, ça n'a jamais été mon sujet, le métier des gens. Et c'est un sujet très intéressant. Et en ce moment, justement, ça m'occupe dans ce roman qui s'appelle peut-être Clève. Bon. Mais dans mes autres romans, la femme qui parle, alors c'est souvent une femme qui parle parce que ça m'est tout bêtement plus évident, même si dans White, par exemple, il y a aussi un homme qui parle. Bon. Mais la femme qui parle, si elle doit aller bosser, ça m'emmerde, quoi. Il faut pas, c'est pas ça son sujet, quoi. Donc ça se trouve comme ça, c'est assez flou, quoi. Elles font pas grand chose, et ça m'autorise aussi à, sans délivrer de messages trop lourdingues, j'espère, à faire parler une petite fibre féministe qui est quand même qu'il s'agit toujours de femmes aliénées, quoi, et que leur vie est pas follement excitante non plus. C'est quand même Madame Bovary, fondamentalement. C'est un personnage extraordinaire. Madame Bovary, imaginez qu'elle ait un job. Le bouquin, on l'a plus, quoi. Donc, il faut quand même qu'elle ait le temps de prendre sa calèche avec Rodolphe, etc. Donc, bon. Donc, et puis, surtout, de rêver. Parce que ces femmes au foyer, on le voit en ce moment dans beaucoup de séries américaines, ce sont des personnages merveilleusement romanesques. Parce qu'elles n'ont que ça à faire, rêver et faire la vaisselle, quoi. Donc, et que faire d'autre en un gîte, à moins que l'on ne songe, mais que faire d'autre quand on fait la vaisselle que rêver. Donc, c'est pour ça.
Justement, tu parles de séries télé. Est-ce que tu as d'autres formes comme ça, comme Gian, qui avait fait
Doggy Bag.
Est-ce que toi, il y a comme ça, oui, des séries ou des films qui te...
Alors, ça me nourrit pas au sens où ça a pu nourrir Gian, qui a vraiment fait Doggy Bag comme une tentative littéraire, une forme nouvelle. Mais ça me distrait, tout bêtement. En ce moment, je suis dans Mad Men. Je ne sais pas si vous connaissez Mad Men. Et qui est justement la description...
Qui est condition de névrosée aussi.
Oui, absolument. Et de
non-dit.
Et de non-dit. Mais le non-dit est très romanesque aussi. Donc Mad Men, c'est la description d'un milieu qui est celui des publicitaires à New York en 1960. C'est très précis. Et il se trouve que là, ça m'intéresse parce que dans ce roman qui s'appelle peut-être Clève, pour une fois... parce que je change aussi, je m'intéresse à un milieu qui est le milieu de la petite bourgeoisie, régionale, en France dans les années 70, parce que c'est mon enfance, hein, tout bêtement, c'est pas autre chose. Et alors ça va se déplacer, enfin, le temps va passer aussi, je vais pas rester dans les années 70, mais dans ce village, il y a différents milieux sociaux, différentes classes sociales, parce qu'il faut vraiment réemployer ce terme aujourd'hui, à mon avis, qui est un outil conceptuel indispensable pour penser le monde, à mon avis. Bon. Donc il y a des classes sociales qui s'affrontent dans une certaine douceur du sud-ouest, mais qui s'affrontent quand même. Et c'est le point de vue, pour l'instant, c'est pas la première personne. Ça va peut-être changer, hein, mais bon. Peut-être je vais arrêter dans 80 pages, mais bon. Il me semble pas, là. Mais c'est le point de vue, pour l'instant, d'une petite fille qui va grandir et qui assiste à ça sans comprendre de quoi il retourne, en fait. Pourquoi les gens sont pas copains, en fait. Donc, pour la première fois, je m'intéresse à, en fait, à des effets oui, de classe sociale, voilà. Donc d'où ça sort, pourquoi maintenant, je ne sais pas. Mais... Mm-hmm. Enfin, oh. Si, enfin, l'époque, enfin, on peut... l'époque est... Il y a l'indifférence quoi, de l'écrivain qui est un moment difficile à tenir. Enfin, mm-hmm. L'époque, elle est là aussi.
Tu trouves plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'écrivain ne peut pas se tenir critique, hors, là, ouais, hors du social ou hors de la société.
Alors ça aussi, c'est... je ne sais pas trop répondre à cette question, mais, plus, ouais, mais... Est-ce que en ce moment... Je saute un peu du coq à l'âne, mais la seule fois où vraiment le réel est venu interrompre mon écriture, à ma grande surprise, c'était pour le 11 septembre 2001. Beaucoup, beaucoup d'écrivains ont témoigné de ça, d'être en train d'écrire un bouquin, quoi, et qui paraît totalement anecdotique à côté de la réalité. On allume la télé et on voit les deux tours s'effondrer. Enfin bon. Et j'étais en train d'écrire une version de White, qui est justement... Alors, White se passe au pôle sud. Bon, ça n'a rien à voir, a priori. Mais la première narratrice que j'avais, c'était un roman... en fait, c'était un agent secret... qui partait au pôle sud. C'était extrêmement romanesque. C'était vraiment, je m'amusais. C'était un roman d'aventure. Et ça n'a pas tenu le choc, en fait. J'ai complètement changé le point de vue parce que écrire un roman d'agent secret à un moment où la CIA avait apparemment pas vu ce qui allait se passer, enfin, où ça me paraît, ce que j'écrivais n'avait aucun sens, quoi. Et puis c'est pas grave non plus parce que. C'est pas comme s'il y avait de toute éternité un roman qui s'appelle White, quoi. Les romans changent et on n'a pas perdu la version géniale. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça, je crois pas. Donc voilà, on fait une autre version qui donne ce livre-là et on essaie d'avancer, quoi.
Tu gardes toutes tes versions comme ça ? Par exemple, pour Clef, tes deux précédentes versions, tu les gardes ?
Oui, c'est pas que je les garde, mais je les jette pas. Donc elles sont là, quelque part. Oui,
et si plus tard, je sais pas, tu meurs, ça t'arrive, tes enfants ont 75 ans, ont absolument besoin d'argent et décident de les publier ?
Je les aurais vendues
avant. Je pense au fils de Nabokov qui a fait ça, ouais. Pour l'original de Laura. Qu'est-ce que... Tu leur demanderas de les détruire par le feu.
Non, mais je rigole pas, je pense que je les aurais vendus avant moi-même. Donc, il y a toujours des espèces de collectionneurs un peu fous comme ça. J'avais une proposition pour le manuscrit de Truisme, et une belle proposition. Et je n'ai pas de manuscrit de Truisme. Le manuscrit de Truisme, c'est une disquette. Et ça ne l'intéressait pas. Il voulait de l'écrit. Mais j'ai la disquette de Truisme. Je me dis peut-être un jour ça vaudrait.
Ça valait pas le coup. Il voulait assez cher payé pour que tu recopies Truisme à la main avec des
ratures. Ça m'a effleuré, mais non, j'ai autre chose à faire.
Alors, tu parles de Clèves, de la princesse de Clèves, des femmes, du féminin. Alors, je crois que tu as fait une thèse sur l'autofiction. Mm-hmm. Comment est-ce que tu te distancies par rapport à ces narratrices ? Est-ce que toi, tu as jamais eu envie de faire de l'autofiction ? C'est vrai qu'il y a eu quand même une tendance lourde récemment. Je te classerai pas du tout dans ces auteurs-là. Est-ce qu'on peut faire une thèse sur quelque chose qui nous... J'imagine que ça t'intéressait si tu as fait cette thèse. Voilà. Et comment est-ce que toi, tu peux dissocier ton écriture ? Enfin, ne pas du tout être dans ce champ littéraire, ou au contraire, est-ce que tu lui tournes pas le dos et peut-être qu'un jour, tu vas livrer quelque chose qu'on va appeler peut-être pas l'autofiction, mais comme on dit plus largement, l'écriture de soi, un texte vraiment autobiographique.
Alors c'est aussi un vaste sujet pour moi, parce que j'ai effectivement fait une thèse sur l'écriture de soi. Quand je l'ai commencé, c'était au début des années 90, et on commençait à parler d'autofiction. C'était Dubrovsky, donc en 77, qui avait inventé ce mot. Mais ce n'était pas encore follement à la mode, quoi, comme maintenant. Mais il y avait quelqu'un qui, de toute évidence, en faisait. C'était Hervé Guibert. enfin à mon avis en tout cas. Et je voulais faire une thèse sur Hervé Guibert, mais à l'époque, l'université n'était pas prête à ça. Et donc, j'étais un peu obligée d'élargir mon sujet à d'autres auteurs et à m'intéresser effectivement à une forme, à mon avis, je ne vais pas faire la puriste, mais pour moi, l'autofiction, c'est une forme très particulière. C'est ce que font des gens comme Pierre Loti ou Blaise Cendrars ou Hervé Guibert. C'est-à-dire, c'est s'inventer une vie avec tous les signes de l'autobiographie, mais une vie totalement invraisemblable. Par exemple, quand Hervé Guibert écrit « J'ai eu le sida pendant 3 mois ». Et il a de bonnes raisons de le faire, parce qu'il n'a vraiment pas envie d'avoir le sida. Donc il a envie de l'avoir que pendant 3 mois. Et il va essayer d'inventer sa vie. Mais il le fait même avant le sida. Il le fait dans un livre comme « Mes parents », qui est un chef-d'œuvre, où il dit « Maintenant que mes parents sont morts, entre parenthèses, mais je mens, je peux bien dire tout le mal que je pense d'eux. » Et ce « mais je mens », toute l'autofiction est là pour moi. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire à la première personne et sous mon nom. Hein, il l'écrit, il dit Hervé Guibert, il dit Hervé, il dit HG dans le livre. Mais elle est invraisemblable. C'est-à-dire, invraisemblable au sens... On peut vérifier facilement que ce n'est pas ça qui est arrivé en vrai. Et donc ses parents, effectivement, n'étaient pas morts à ce moment-là. Et il n'a pas eu, le pauvre, le sida pendant 3 mois. Donc, pour moi, c'est ça, l'autofiction. C'est quand Pierre Loti, sous le nom de Pierre Loti, enfin, c'est plutôt Blaise Cendrars qui fait ça, sous le nom de B.C., s'invente une vie extraordinaire dans ce chef-d'œuvre aussi qui est Moravagine, un livre magnifique. Une vie en Amazonie, avec des voyages, ou alors quelque chose comme Arthur Gordon Pym. Alors bon, c'est un peu différent parce que c'est pas Edgar Allan Poe, c'est pas le nom Edgar Allan Poe, mais une première personne qui a l'air totalement réaliste et qui vit des choses de dingue. Bon. Donc en fait, il me semble que j'ai fait une autofiction dans un roman qui s'appelle Le Pays, où il y a des parties à la première personne vraiment très proche de choses que j'ai vécues autobiographiquement. Le personnage s'appelle Marie Rivière, qui est un jeu de mots sur mon nom, tout bête, quoi, parce que Rieux, ça veut, Darieux, ça veut dire rivière. Donc, et où il y a en même temps des hologrammes et une maison des morts, où on va rendre visite à ces morts et où on les rencontre sous forme d'hologrammes. Et bon, c'est une idée pour moi que sans doute je reprendrai, qui est très, très vivante, en fait, pour moi. Donc, cette autofiction-là, elle m'intéresse énormément et elle est très vaste. Hein. Après, le mot autofiction a été repris largement par la presse et est devenu, en fait, le roman de soi. Quoi. C'est pas très différent de ce qu'on a toujours fait. Au sens, c'est ni mieux ni moins bien qu'avant. Au sens où, voilà, c'est une forme qui se déplace avec le temps et qui est contemporaine. Les vies changent. On vit pas aujourd'hui comme on vivait en 1960. Voilà, donc c'est ça l'autofiction, mais c'est le roman de soi. Alors ça m'a jamais trop... Ma vie n'est pas très intéressante et j'ai une tradition dans ma famille, et là je vous parle autobiographiquement, j'ai une tradition à la fois très lourde et très belle de silence. Les gens ne disent rien, y compris sur des drames absolument épouvantables qui nous ont tous fracassés, mais on ne dit rien. Et voilà, j'hérite de ça et je ne vais pas commencer à... Enfin, ça serait extrêmement difficile pour moi de faire autre chose que trouver une forme qui dise ce silence. Voilà, c'est ça. Si je racontais l'histoire, quel intérêt ? Enfin, il faut au contraire que je trouve une forme qui dise ce silence et qui le respecte aussi.
Oui, plus que l'histoire elle-même, en fait.
Oh, l'histoire, le drame, il arrive. Enfin, les drames sont toujours les mêmes depuis Homère, quoi, depuis toujours. Donc, trouver la forme du silence, c'est plutôt ça.
Marie, moi, j'aimerais bien qu'on laisse un peu les. Les personnes qui ont eu la gentillesse de venir nous voir te poser des questions. Je pense que je n'ai pas, loin de là, fait le tour de tous les livres de Marie Darrieussecq, ni de toutes les questions qu'on peut lui poser. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions ?
Je suis un peu curieux. Vous n'écrivez pas directement à l'ordinateur ? Mais vous écrivez à la main autre chose ou vous parlez sur un magnétophone ?
Alors j'écris d'abord à la main, par plaisir. Et ensuite...
avec une gomme, avec un crayon, une gomme.
Alors, c'est très technique. J'ai une méthode que j'ai mise au point il y a très longtemps. J'ai grand cahier à 4, 100 lignes. la page est totalement blanche, où j'écris sans laisser aucune marge. Je suis contente quand la page est entièrement remplie à la fin de la journée. Mais je n'écris que sur la page de droite et la page de gauche est laissée libre pour que je prenne des notes, des idées qui me viennent, que je fasse, que je renvoie des paragraphes, que je fasse des rajouts. Donc c'est mon atelier, quoi. Et une fois que tous ces cahiers sont pleins de machins, alors c'est plutôt, pour vous répondre très précisément, c'est plutôt au stylo, sauf pendant mes trois grossesses où j'étais obligée d'être allongée et où je disais à mon mari, mais j'arrive pas à écrire parce que l'encre n'arrive pas. Et il m'a raconté, excusez-moi, mon mari est astrophysicien, j'en suis très fière, et il m'a raconté que dans l'espace, ils avaient eu ce problème qu'effectivement, on ne pouvait pas écrire dans l'espace parce que l'encre n'arrivait pas au bout des plumes, quoi. Et donc la NASA avait planché pendant 10 ans sur un stylo avec une petite pompe dedans qui envoyait en permanence de l'encre, et donc les astronautes américains arrivaient à écrire dans les capsules. Et les Russes, pendant ce temps-là, c'est une histoire vraie, hein, les Russes, eh ben, eux, ils embarquaient des crayons. Les crayons. Et donc mon mari m'a dit « écris au crayon ». Et effectivement, ça marchait, mais impeccable. Donc j'ai écrit au moins 3 de mes livres au crayon et les autres à la plume. Et après, je reprends tout à l'ordinateur et c'est là que ça devient un autre chantier où je me sers des traitements de texte modernes, quoi, qui sont très, très utiles aussi.
Et est-ce que vous raturez beaucoup quand vous écrivez ?
Alors ça dépend des livres. Beaucoup. J'aurais dû vous apporter un manuscrit. Je rature... je sais pas, de façon moyenne, je dirais. Et ça dépend des livres. Tom et Mort, j'ai très peu raturé. Ça a avancé. Je crois qu'à partir du moment où j'avais trouvé ça, cette homogénéité, quoi, le fait qu'elle écrivait, ça a avancé. Il y a eu Bref Séjour chez les vivants, j'ai beaucoup raturé. J'ai beaucoup bataillé. Ça dépend des livres. Le bébé, par exemple, mon seul livre autobiographique, il n'y a quasiment pas de rature parce que j'écrivais par espèce de flash, comme ça. Et ça faisait des petits paquets comme ça, qui venaient tout seuls. Bon.
Et vous avez des phrases qui se forment la nuit dans votre tête et qui vous réveillent ?
Non, ça me réveille. Je suis... Non, quelque chose me réveille, je ne sais pas quoi, l'angoisse, je ne sais pas, ou une sirène dans la rue. Et c'est surtout des images. Parfois, j'ai des phrases, mais c'est des lambeaux. C'est rarement... La phrase, elle me vient quand j'écris, quand je suis avec un papier et un crayon.
Voilà, il y a une autre question là, pour Marie.
Merci beaucoup de tout ce que vous avez déjà dit. Mais vous avez mentionné les traces, vous avez mentionné Duras et Faulkner, des traces des auteurs, des lectures précédentes. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres auteurs français ou étrangers qui vous hantent ?
Mmh. Alors, Duras et Nathalie Sarraute, pour des raisons différentes, j'en ai déjà parlé. Hervé Guibert, j'en ai déjà parlé. Annie Ernaux, par exemple. Alors, c'est pas une. Elle me hante pas. C'est juste quelqu'un que je lis avec beaucoup de plaisir. Et Dieu sait que on est dans des univers totalement différents. Mais c'est voilà, elle fait partie des auteurs que j'estime et que je lis régulièrement. De la même façon que Patrick Modiano, par exemple, dans mes aînés, comme ça, ce sont vraiment une espèce de couple parental spirituel, quoi, complètement délirant. Mais bon, c'est Modiano et Arnaud. Oui. Alors après, je lis tout le temps. Là, en ce moment, je lis Guerre et Paix, par exemple, que j'avais jamais lu. Voilà, je suis totalement habitée par Pierre, par André Bolkonski, par Natacha, par voilà. En ce moment, je suis là-dedans et Napoléon, évidemment. Et là, en ce moment, je suis justement dans une espèce de flux de conscience de Napoléon, ce qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, donc vous vous rappelez l'épisode de Yann Karski, c'est apparemment interdit de se mettre dans la tête des personnages historiques comme ça. Donc là, Napoléon, c'est assez drôle, surtout qu'il est Tolstoï ne le rate pas, quoi. Alors quoi d'autre ces derniers temps? Alors, je lis beaucoup de psychologie, je suis très hantée par Freud tout bêtement, hein. Mais je lis tout le temps, donc ça peut être Georges Perec, ça peut être là aussi un univers totalement différent, mais je suis sûre qu'il m'a laissé quelque chose, ne serait-ce que parce qu'il parle sans cesse de la disparition, et même si on ne le traite pas du tout de la même façon, c'est j'ai vraiment trouvé là une sorte de collègue en disparition, quoi. Enfin, quelqu'un qui savait de quoi il parlait, quoi. Qui d'autre chez les étrangers, par exemple, je lis aussi assidûment Yoko Ogawa, qui est un auteur japonais qui est publié chez Actes Sud, toujours très bien traduit, parce qu'elle aussi elle parle beaucoup de thèmes qui me sont proches, de disparition, d'enfants étranges, de grossesse, tellement de choses. Par exemple, Murakami, celui qui a écrit Kafka on the Shore, voilà, c'est un auteur parfois décevant, mais je le lis quand même toujours. Je me dis toujours, ah, peut-être le prochain va être mieux. Bon, voilà, j'ai toujours de l'espoir, parce que La fin des temps de Murakami, par exemple, c'est un livre que je trouve merveilleux, mais bon, avec des licornes, avec. Donc voilà, j'ai des goûts très éclectiques, mais je lis. Je lis aussi beaucoup de livres de chez POL, puisque Paul souvent me les donne gentiment. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, bonsoir. Moi, j'ai été frappée par ce que vous avez dit sur la tradition du silence. Mmh. Parce que, et le fait qu'au départ, vous avez écrit des choses plus ou moins autobiographiques, si j'ai bien compris, qui n'ont pas fonctionné. Mmh. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus, parce que je me sens un peu concernée. Mmh. Merci.
Je me pose moi-même beaucoup de questions là-dessus. Et, il n'est pas du tout exclu qu'un jour... J'ai envie de dire, quand je serai vieille, j'espère un jour devenir vieille, mais ça veut dire quand mes parents seront morts, comme Hervé Guibert, mais pour de vrai, il n'est pas du tout exclu que je raconte ma vie, autobiographiquement. Un peu comme Patrick Modiano a fait pour Pédigré, qui est, à mon avis, un de ses meilleurs livres, où de façon extrêmement simple, dépouillée... Il met les choses à plat, voilà. Il raconte des événements, les uns après les autres. Et peut-être un jour je ferai ça, mais ça sera quand j'aurai... Il y a une autre phrase de Faulkner que j'aime beaucoup. Il a un jour, assez tôt finalement, vers 55 ans, il a arrêté d'écrire. On lui a dit, mais pourquoi ? Il a dit, le tonneau est vide. Et c'est quelque chose... Je pense qu'un jour ça m'arrivera. C'est tout à fait possible. Nathalie Sarraute, elle a écrit jusqu'à 99 ans et demi, jusqu'au bout. Je me dis que peut-être, moi, un jour, le tonneau sera vide. Et à ce moment-là, j'écrirai ce qui restera. C'est-à-dire cette histoire de ma vie, qui est aussi banale qu'une autre, mais qui a été absolument recouverte de silence. Voilà, par un couple parental comme il y en a, quoi. Mais pour l'instant, je suis passionnément éprise de fiction, aussi par une sorte de pacte familial où on n'entre pas sur cette zone de silence. Parce qu'elle est absolument... on ne peut pas habiter là. On ne peut pas respirer là. Donc, pour l'instant, voilà, quand je fais des grands discours, finalement, sur l'indicible, c'est aussi ça. Je grignote moi-même sur ma propre zone de silence. Et je pense qu'on en a toutes une, et que c'est absolument nécessaire, pour notre, ne serait-ce que pour notre santé mentale. Mais il y a... Aussi en ce moment, alors c'est l'écueil de l'autofiction, mais il y a une sorte de rage pour la véracité. C'est un mot qu'employait Dominique Viard, qui est un critique universitaire, un très bon universitaire, où il diagnostiquait, disons, la mort du roman. Alors moi, les gens qui disent que le roman va mourir, ça me fait toujours rire, quoi, parce que le roman survivra à Dominique Viard aussi, quoi, évidemment. Mais enfin, son diagnostic était intéressant au sens où il détectait aujourd'hui... un goût pour la véracité dans le public. Alors, il y a tout ce qui est reality show, tout ça, mais quand on regarde la littérature, il y a toujours eu aussi des mauvais livres sur le versant du déballage. Hein. Ça a toujours existé, ça, les gens qui racontent leur vie et que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, évidemment, les gens qui racontent leur vie et que ça a un intérêt aussi, comme Annie Ernaux, ça a toujours existé aussi. Il se trouve que moi, pour l'instant, la fiction m'est une métaphore nécessaire pour décrire le monde, parce que le monde est plein de poches de silence, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, et on ne peut pas toutes les faire exploser. Si on le faisait toutes exploser, je crois qu'on ne pourrait plus parler même. Donc la fiction sert aussi à repérer ces zones de silence et à essayer délicatement d'entrer dedans. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marie Dariussec ?
Ce que vous venez de dire à l'instant sur le silence, comment vous l'appliquez à Tom est mort ? Est-ce que c'est une recherche de dire ou de ne pas dire ?
Alors, bon, c'est toujours entre les deux. Hein. Je cherche toujours mon chemin entre dire et ne pas dire. Tous mes livres. Comment dire, en chasse, je dirais, un enfant mort. C'est-à-dire, ils sont comme des coffrets ou des chasses au sens moyenâgeux autour d'un enfant mort. Même dans le truisme, ça n'apparaît pas forcément au lecteur, mais même dans le truisme, elle n'arrive pas dans le livre à mettre bas. Hein, mais ça parle de ça. Et elle regarde sa portée de créature morte. Dans Naissance des fantômes aussi, cette femme, et c'est très discret aussi, parce que je sais ce que je fais, pour le coup, cette femme, quelques lecteurs m'en ont parlé. Cette femme a perdu un enfant à 6 mois de grossesse, d'un accouchement prématuré. Et c'est très discret, c'est un paragraphe. Et je sais d'où elle parle, c'est-à-dire c'est aussi ça qui la hante. C'est pas que quand son mari disparaît, c'est que ça recommence, quoi. Donc, c'est pas un roman sur ça, mais c'est un roman sur la disparition. Et dans absolument tous mes livres, dans Bref, Séjour chez les vivants, évidemment, c'est le centre de la spirale, c'est le centre, vous savez, l'œil de l'ouragan. Il y a un enfant mort, que les sœurs, comme ça. Tous mes livres aussi sont très habités par la figure d'Antigone, hein, par la figure des sœurs qui gardent la mémoire d'un frère. Donc, j'ai fait un séminaire sur Antigone, justement, à Normale Sup, il y a 2 ans, je crois. Donc, Tom est mort et à un moment, il fallait que j'affronte le deuil lui-même, le récit du deuil lui-même. Mais je suis encore très, très loin de pouvoir parler de ce qui est recouvert de silence dans ma famille. Enfin, vous entendez ce que c'est, de toute façon. Mais on ne peut pas, comme ça, avoir été élevé dans le silence. Et quoi, aller dégoiser dans la presse sur mes petits malheurs privés, ça n'a pas de sens, quoi. La littérature, l'écriture, pour moi, je ne fais pas du tout, je fais pas du prosélytisme. Hein, je parle sans vergogne, je ne parle que de moi, là. Pour moi, la littérature est la suite de ce silence. C'est ce geste qui continue, qui a été à la fois dévastateur et magnifique. Ce qu'est la littérature. Enfin, je pense que la littérature est là aussi pour semer le désordre. Hein. Elle n'est pas du tout là pour nous réconcilier. Hein. Donc, il s'agit de ça. Donc, voilà, je vais pas raconter ma vie là maintenant. J'ai besoin de passer par la fiction pour entourer ce silence. Et après, on verra, peut-être. Je sais pas. C'est pas non plus forcément nécessaire.
Et quelle distinction vous faites entre fiction et figurable ?
Figurable. Ce qui est figurable ou pas ? Tout de suite, ça me fait penser à l'art contemporain plutôt. Hein. C'est-à-dire, par exemple, dans le travail de Louise Bourgeois, dont on parle beaucoup, bien sûr, en ce moment, mais ça fait des années que j'écris autour d'elle, je parle d'elle. Il y a de ça. Il y a du non-figurable qu'elle a réussi à rendre figurable. Donc, tout de suite, ça va vers là pour moi. C'est plutôt des formes, des images. Voilà, c'est comme ça que je vous répondrai.
Oui, parce que moi, je pensais, par exemple, à une disparition qu'opère Beckett dans son écriture et qui n'a rien à voir avec le figurable.
Tout à fait, oui, absolument. Beckett travaille ça, bien sûr. Non, de toute façon, il est évident qu'après Auschwitz, on ne parle que de ça. Hein. Même quand on n'en parle pas directement, aucun de mes livres ne parle d'Auschwitz. Mais ils parlent tous de ça, et d'Hiroshima aussi. Et je pense que les livres totalement anecdotiques aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas été quelque part brisés par ça, comme Paul Celan dit, par ce qui arriva. Il n'est pas question forcément d'en parler directement, voilà, de raconter une visite à Auschwitz, pas du tout, ou même de se mettre dans la peau d'un enfant qui est mort à Auschwitz. Et d'ailleurs, pourquoi pas ? Ça peut aussi, peut-être, faire des beaux livres. Et par exemple, Vassili Grossman dans Vie et Destin fait parler une déportée jusque vers la chambre à gaz. Pas dedans, mais vers. Bon. Donc tout est possible s'il y a une écriture derrière. Bon. Mais même si mes livres ne parlent pas de ça, mes livres ont été fracturés par ça. Enfin, je veux dire, j'ai vu Nuit et brouillard, j'ai vu Shoah. On est tous lestés par ça et par le désastre. C'est Blanchot qui en parle aussi très bien, forcément. Mais Deleuze aussi, à sa façon, en parle tout le monde. Tous ceux qui ont pensé quelque chose depuis la guerre parlent de ça. Le reste, c'est totalement anecdotique. Donc, la disparition, bien sûr, ça vient de mon histoire familiale, mais elle vient percuter quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça et voilà, vaste et dévastation, quoi. Et pourtant, on écrit, voilà. On écrit quand même. Et il faut écrire, il faut porter cette mémoire-là. C'est pas un devoir de mémoire, c'est débile, ça, devoir de mémoire, comme si la mémoire, on était, quoi. Il y a au contraire un désir de mémoire, même si c'est un désir épouvantable, enfin, au sens, il faut garder ça, l'épouvantable, en nous. On n'a pas le choix, mais c'est pas un devoir. C'est de l'ordre de... C'est ça où on meurt, nous aussi, quoi. La littérature, aujourd'hui, c'est ça. Sinon, c'est rien. Alors oui, j'y pense parce que mon père, mon beau-père, ils l'ont fait. Donc et là aussi, quel silence. Mes deux beaux-pères d'ailleurs. Bon, j'ai pas lu en fait le livre de Laurent Mauvignier des hommes, mais je vais le lire. J'attends beaucoup de ce livre parce que voilà, la littérature continue aussi dans cette mémoire-là. Pour l'instant, moi, je sens pas par là, alors entendez-moi bien, hein, de désir. C'est pas un désir joyeux, hein, c'est pas un désir... Mais mon désir d'écriture, il va vers d'autres zones de silence. Mais la guerre d'Algérie, en particulier dans Bref séjour chez les vivants, de façon discrète, là aussi, un des personnages qui s'appelle Momo, Maurice, et qui est très inspiré par mon beau-père, c'est-à-dire l'actuel mari de ma mère, si vous voulez tout savoir. Voilà, il l'a faite, cette guerre-là d'Algérie. J'hérite de ça, que je le veuille ou non, quoi. Mais je ne vais pas non plus me faire un devoir d'écrire dessus, parce que je ne m'en sens pas capable pour l'instant. Mais j'étais très frappée, par exemple, j'ai lu récemment, il y a quelques années, Le carnet d'or de Doris Lessing, où elle se met dans la peau, à un moment, d'un combattant de la guerre d'Algérie, côté algérien. Et vraiment, elle se met dans sa peau. C'est-à-dire, elle décrit son bras, les poils virils, quoi, de son bras, et la main qui tient le flingue, quoi. Et je me suis dit, la littérature peut tout. La littérature est capable de tout. Doris Lessing a pris ça en charge aussi. Alors que c'était une femme anglaise qui n'avait rien à voir, et il fallait qu'elle le fasse, et voilà. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées.
On n'ose pas vous parler de la question de la plagiomnie.
Il faut lire le rapport de police, là, ça fait un peu tard pour, pour en parler, mais ça tourne aussi beaucoup sur ces histoires de limitation, de qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on peut écrire et qu'est-ce qu'on est autorisé à écrire aujourd'hui. Mais là, il faut lire ce livre qui est excellent.
Oui, qui est un essai que tu as choisi d'écrire parce qu'il y avait eu ces deux... Ces deux suspicions ou attaques de la part de deux écrivains, dont le dernier était Camille Laurence, et je pense que la meilleure réponse était de faire un essai qui remettait en perspective tous les écrivains qui ont été aussi attaqués ou accusés d'avoir plagié un autre auteur, et du coup mis en perspective. C'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé cet essai absolument formidable parce qu'on voit à quel point à chaque fois, que ce soit névrotiquement, que ce soit politiquement, que ce soit pour x ou y raison, c'est à chaque fois une autre façon de censurer la littérature. Et c'est vrai qu'on, en tout cas la fiction, et c'est vrai qu'on n'en sort pas. Là tu abordais aussi au cours de cette rencontre un peu Yannick Enel, le livre de Yannick Enel sur Yann Karski. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce débat? Je sais que ça, c'était aussi au moment où tu sortais ton texte.
Très,
je sais que Laurence
Mann
a accusé aussi Enel de le plagier. Donc encore une fois, comment tu as retrouvé, enfin je prends ce débat parce que c'est le dernier en date, qui était aussi une question intellectuelle intéressante, en quoi est-ce que tu as retrouvé comme ça des espèces de symptômes de limitation, et pourquoi pour cette question d'histoire?
En fait, fondamentalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en France, en tout cas, mais aussi dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, la fiction est accusée d'être un plagiat du récit de fait. C'est ça qui se passe fondamentalement. C'est-à-dire comme si, à partir du moment où on imaginait quelque chose, c'était une usurpation. En fait, apparemment, il y a une partie du public ou des écrivains qui a du mal à croire à l'imaginaire, à croire qu'il est possible d'imaginer.
Et c'est-à-dire, effectivement, là où Dominique Viera a pas tort, c'est qu'il pèse une certaine menace sur le roman. Ça ne va pas le tuer, hein. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi ça ne va pas le tuer, mais c'est une évidence aussi. Il y aura toujours des gens qui écriront des romans et qui en liront. Bon. Mais, parce que l'imaginaire existe. Mais il y a une espèce de panique en ce moment, de besoin de véracité, parce que sans doute l'époque est troublée ou je ne sais quoi, mais où écrire un roman est tout de suite suspect. Et on retourne à Platon. C'est-à-dire que, vous savez, Platon, dans La République, c'est fascinant de lire ça aujourd'hui, il accepte qu'Homère écrive des récits à la troisième personne. Et encore, hein, vous savez, il faut chasser le poète de la cité, etc. Mais bon, passe encore d'écrire des récits à la troisième personne. Homère, dit Platon, pourtant n'a pas fait la guerre. Donc il se permet de se mettre à la place des vrais gens qui, eux, l'ont faite. Allez voir, hein, c'est écrit comme ça. Mais alors, ce qui est vraiment, vraiment intolérable, c'est qu'il écrive ça à la première personne. Ça, c'est l'usurpation, c'est vraiment le plagiat psychique, quoi. C'est l'usurpation maximum. Et donc, Platon réécrit, je crois que c'est dans le livre 10 de la République, il réécrit tout un monologue d'un prêtre d'Apollon qui s'appelle Chryséis, qui est écrit chez Homère à la première personne, et où d'ailleurs Chryséis est en deuil, et c'est une voix chagrinée qui parle, hein, une voix de tristesse. Et Platon réécrit le monologue de façon licite, c'est-à-dire à la troisième personne. Et donc aujourd'hui, on est dans une époque extraordinairement platonicienne pour ça. Et c'est ce qu'on a reproché à Yannick Enel. On lui a reproché d'écrire à la première personne la voix de Yann Karski, la voix qu'il imagine de Yann Karski. Qui savait ce qui se passait dans la tête de Yann Karski, à l'intérieur de sa tête, hein? Parce que quand il parle à Lanzmann dans le film Yann Karski, il faut absolument voir ce film, c'est extraordinaire. Il raconte qu'il était une machine et qu'il débitait son discours. Bon, je ne vais pas vous remettre toute l'histoire en tête, hein, mais qu'est-ce qui se passait dans sa tête, à cet homme-là, dans sa boîte crânienne fermée? Personne ne le sait. Donc, et ni Lanzmann, ni un autre. Donc, oui, le romancier a bien entendu le droit de se mettre à l'intérieur de sa thèse et de proposer une hypothèse. Un roman, c'est une hypothèse. On n'a pas le droit de faire ça. Et l'époque est effectivement à une demande de vérité, d'authenticité, pour calmer des angoisses. Et puis bon, c'est vrai que on est après le désastre. Donc on est dans une difficulté de penser. C'est vrai. Mais le roman nous y aide. Hein. Vous savez, il y a aussi cette grande phrase de Semprin à propos des bienveillantes. Là, il a dit sans fiction, le souvenir meurt. Parce que, voilà, les témoins sont âgés, les témoins vont mourir. Donc, il va bien falloir porter cette mémoire. Il va falloir vivre avec cette mémoire. Sinon, voilà, sinon on va crever. Donc, comment faire si on ne va pas pouvoir répéter comme ça des textes sacrés à l'infini? Il va falloir faire vivre cette mémoire dans la fiction. Alors, il y a des tentatives très ratées, hein. Moi, je ne suis pas du tout convaincue, par exemple, par La vie est belle de Benigni, parce que là, le niveau d'erreur historique devient vraiment grave, parce que ça vient perturber la mémoire. Il me semble que Yannick Enel, s'il a fait des micro-erreurs historiques, on n'en est vraiment pas là. Donc, c'est un vaste débat, mais il faut absolument que ces tentatives soient permises, voilà, qu'on puisse continuer à essayer de faire vivre cette mémoire par la fiction.
Alors, toi qui as écrit Rapport de police, en quoi le plagiat est une forme d'arme ultime contre l'écrivain?
Le plagiat au sens de accuser un roman d'être une copie du réel. Mmh. Oui, c'est complètement platonicien. C'est-à-dire, quand, par exemple, Émile Zola a été accusé de plagiat par un type qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui était un ancien ouvrier. Et ce type avait écrit donc sur la vie très difficile des femmes, en particulier des ouvrières, dans les usines du Nord. Et Zola avait lu cet écrit, ça s'appelait Le Sublime, voilà, parce que l'ouvrier était le sublime. Et il s'en est inspiré, et de beaucoup d'autres choses, pour écrire Gervaise. Et Gervaise, il se trouve que ça a eu beaucoup de succès. Et avant, Zola était... et aussi L'Assommoir, oui, c'est l'époque du succès de L'Assommoir. Bon. Et donc, voilà, il est accusé de plagiat, c'est affreux, c'est comme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, la presse adore cette histoire, voilà, partout, le nom de Zola est sali, etc. Il écrit une lettre très très belle, pleine de dignité. Et ça servait à... Le réel, là, c'est-à-dire ce livre qui s'appelait Le Sublime, que personne n'avait lu d'ailleurs, hein, ben, c'était plus vrai. voilà, c'était plus authentique, quoi. Et ce côté, vous savez, la notion aussi de terroir, de bien de chez nous, ces notions-là d'authenticité. C'est trop long là pour en parler, mais j'ai étudié aussi la rhétorique de ces pamphlets qui accusent de plagiat un autre écrivain. La rhétorique est toujours la même, et c'est une rhétorique du bien de chez nous, quoi. C'est une rhétorique qui pue, en fait, et qui est, mais à l'inverse de la littérature. Enfin, la littérature, c'est le brassage, ça circule, ça respire, quoi. Enfin, on essaye au moins. Donc j'ai étudié une dizaine d'histoires comme ça où des écrivains ont été accusés, et c'est pas toujours sur la fiction aussi, hein, ça, c'est une partie du livre, ça. Mais Mandelstam, Paul Celan ont été accusés de plagiat. Et c'est toujours des affaires de bien de chez nous, bien de chez moi, c'est à moi. Là. Comme si quelque chose de l'ordre de la propriété devenait aussi dans la littérature... comme si la propriété était une valeur littéraire, quoi, et le propre aussi. Bon, c'est trop long pour raconter tout ça, mais c'est des concepts que j'essaie d'explorer dans ce rapport de police.
Alors on a peut-être le temps encore pour une dernière question. Ça marche? Vous dites
oui.
Un, deux, trois.
Oui, ça marche. Dans votre rapport, dans le rapport que l'écrivain peut avoir entre... lui, sa vie, son quotidien, son existence et le monde extérieur, que le monde soit politique, qu'il soit amical, qu'il soit tout simplement dans la rue. Comment est-ce que l'écrivain qui n'est pas comme Kafka, qui n'a pas d'activité salariée, qui n'est pas forcé de sortir, d'aller vers ceux qu'il ne connaît pas, comment est-ce que l'écrivain entretient ce rapport à l'autre, à l'étranger, mais l'étranger comme étranger de soi-même, et est-ce qu'il se force à entretenir ce rapport?
C'est la question de ma vie, ça. Alors, vraiment, au départ, c'est tout bête, c'est très trivial, hein, mais je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Ça a été très important pour maintenir ce contact. Je savais que si je faisais pas ça, vraiment, j'allais devenir cinglée, quoi. C'est-à-dire complètement enfermée sur moi. Et c'est pas passé loin, mais bon, ça va. Donc, et ça me tient beaucoup. J'ai vraiment besoin d'avoir une vie extrêmement routinière, bon, très heureuse par ailleurs, hein, mais pour pouvoir me perdre dans l'écriture. Ça a l'air comme ça très romantique, mais de facto, c'est ce qui se passe, quoi. Et quand je sors de mes cahiers, voilà, je retrouve une vie quotidienne, voilà, stable. Alors, il y a tout un autre genre d'écrivains. Hein, il y a ceux qui sont sex, drugs and rock and roll. Ça, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas du tout faire ça. J'ai besoin de quelque chose de très carré pour pouvoir écrire. Bon. La deuxième étape, ça a été je ne peux pas vous répondre autrement que devenir psychanalyste. Alors, bien sûr, je vais parfois écrire dans les bistrots. Je vais manifester pour certaines causes. Je fais partie d'une association qui défend les victimes du Distilben. C'est quelque chose de très spécifique. C'est un scandale médical qui me concerne. Bon, bref, ça, c'est mon contact dans la vie, dans la société civile, comme on dit. Il y a des causes comme l'avortement, les sans-papiers, bon, des choses comme ça. Mais en fait, il y a eu un moment où il fallait que je fasse autre chose, réellement. Et parce que l'écriture me maintient dans une mélancolie. Que le livre que j'écrive soit triste ou gai, le geste de l'écriture est extrêmement mélancolique. Il est connecté directement avec la voix des morts. Donc, des fois, c'est lourd, quoi. Bon. Donc, c'est tout bête. Le coup de sonnette du patient, c'est le meilleur antidépresseur que je connaisse. C'est un truc de dingue, mais c'est un shoot, quoi. Parce que normalement, sinon je suis en pyjama, mes enfants vont à l'école, je me recouche et je commence à écrire dans mon lit en buvant des litres de thé, quoi. Enfin, c'est le marasme complet, quoi. Le patient sonne, je suis obligée d'être à peu près pimpante comme là, quoi. Et d'être à l'autre. C'est pas une histoire de don ou je ne sais quoi, hein. C'est juste que l'autre est là et je peux pas faire qu'il ne soit pas là. Donc il est là et il faut bien que je fasse avec. Et ça pour moi, c'est très efficace. Et Winnicott dit mes patients me soignent. Mais c'est vraiment, et il s'étonne d'ailleurs qu'il le paye. Mais c'est vraiment ça. C'est mes patients me soignent. Alors, j'essaie que ce soit réciproque, mais quand même, c'est pour l'instant, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Enfin, voilà.
Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou pas?
Une dernière question?
Non, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne t'aurait pas demandé, que tu as absolument envie d'exprimer? Pour clore, genre le dernier mot.
Non, moi ça me va.
Qu'on te souhaite bonne chance pour Clève, alors en espérant que c'est la bonne version.
Oui.
Merci beaucoup. Merci.